midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue, bon week-end. Mon invité aujourd'hui s'appelle Omar Benlalla, bienvenue.
Merci, bonjour.
Après un premier livre très remarqué, vous revenez avec un récit, il s'appelle « Tu n'habiteras jamais Paris », sous-titré « Mon père, Martin Nadeau et moi » aux éditions Flammarion. Et le sous-titre est important parce qu'en fait c'est un livre collectif, on va dire.
Absolument, c'est un livre que j'ai écrit avec mon père analphabète, mon père qui est arrivé d'Algérie dans les années 60.
Donc Bouzide, dont on va beaucoup parler ce matin.
Voilà, et à qui j'ai proposé de raconter son histoire dans un livre. Il a tout de suite accepté le projet et on a travaillé à l'écriture de ce livre ensemble pendant 2 années.
Ça, c'est en vrai.
Pardon ?
Ça s'est vraiment passé comme ça ?
Oui, ça s'est passé comme ça. Il a tout de suite été d'accord.
J'ai cru que c'était pour le roman, qu'en fait, que c'était inclus dans le roman, finalement.
Non, vraiment, je pense que c'est un projet qui lui tenait à cœur. Et finalement, j'ai presque l'impression qu'il avait une idée derrière la tête parce que malheureusement, il est décédé juste avant la sortie du bouquin. Donc il nous a quittés à 80 ans, il a reçu le livre jeudi, il est parti le vendredi. Et j'ai le sentiment en fait qu'il avait envie de laisser justement cette trace-là. Et donc on a travaillé à laisser justement ce témoignage pendant 2 années.
Alors il y a votre père qui vous raconte son histoire, mais il y a votre mère aussi d'une certaine façon que vous ne mettez pas en avant. Alors pourquoi est-ce que votre mère est tellement en retrait? Et finalement, est-ce que vos parents ont parlé chacun avec la même facilité ou un des deux a été plus réticent?
Alors c'est une excellente question et qu'il faudrait d'ailleurs lui poser à elle. J'ai voulu au début justement que leur parcours à tous les deux en fait soit vraiment mêlé et mélangé dans ce livre. Mais ma mère avait beaucoup plus de réticence et ma mère en fait me disait « ce qui est à la maison reste à la maison ». Ce qui est très intéressant finalement comme réponse parce que peut-être que pour elle justement un peu son parcours et son quotidien en fait est vraiment lié à son foyer. Et le foyer en fait c'est le rapport à l'intimité, le rapport à ce qui reste secret. Alors que mon père lui a peut-être plus un rapport à son parcours en France, à son immigration, à un rapport à l'extérieur. Et l'extérieur, c'est souvent plus facile de le raconter. Donc peut-être que c'est un début de réponse au fait que ma mère, en fait, est moins présente dans le livre, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé.
Ce qui veut dire qu'on ne lave pas le linge sale en famille, quoi.
C'est ça, et pourtant...
En dehors de la famille.
C'est ça, et ça a été très clair. Moi, au début, je leur ai vraiment dit, les histoires de famille, ça n'intéressera personne. Et l'idée, en fait, c'était vraiment de retracer leur parcours, leur quotidien, les chemins par lesquels ils sont passés. Mais malgré ça, elle a préféré ne pas.
Et pourtant, ce sont les hommes qui ont la réputation, surtout les hommes algériens, kabyles, qui ont vraiment la réputation d'être des taiseux, hein, pour le coup.
C'est ça, et c'est pour ça que j'ai profité justement de mon père, parce que mon père, en fait, était quelqu'un qui aimait beaucoup raconter, se raconter, qui aimait beaucoup, en fait, parler avec les gens. D'ailleurs, c'était une figure du quartier, parce qu'il discutait avec tout le monde. Et finalement, j'ai profité aussi de cette qualité-là pour profiter de cette qualité-là pour raconter, en fait, ceux qui, finalement, ne se racontent pas ou qu'on ne raconte pas.
Mmh. Alors, la citation exacte, c'est « Il faut que tu t'y fasses, tu n'habiteras jamais à Paris hein. ». Souvent, on tronque d'ailleurs les citations. C'est comme la citation de Martin Nadeau qu'on connaît, c'est « Quand le bâtiment va, tout va ». Mais c'était pas sa citation, en fait.
C'est ça, et en fait, la citation, enfin le titre s'appelle « Tu n'habiteras jamais Paris », et c'est le premier chapitre au moment où mon père arrive en 63 à Paris, et à la fin des années 60, il demande un coup de main à l'assistante sociale de la mairie, parce qu'il veut faire venir sa compagne, et sa compagne lui dit...
Sa femme, exactement,
et l'assistante sociale lui dit « Je veux bien t'aider, mais tu iras comme tout le monde en banlieue ». Et mon père, en fait, qui construit la capitale depuis des années et qui adore cette ville, demande un appartement justement à Paris. Et lui dit, il faut que tu t'y fasses, tu n'habiteras jamais Paris. Et c'est le début du livre et on comprend au fur et à mesure.
C'est violent. D'ailleurs, c'est très violent les rapports qu'il y a entre votre père et cette assistante qui porte mal le nom de social.
C'est ça, et d'ailleurs il est dit au moins assistante ou sociale, l'une des deux, mais au moins faire à moitié son travail, et c'est d'autant plus violent que mon père en fait n'a pas les mots pour répondre justement à cette injonction d'une certaine manière, et finalement mon père en fait dit simplement non, et c'est ce qu'il dit, c'est ma révolution française à moi, j'ai simplement dit non, et c'est comme ça en fait que le livre commence.
Et pourtant, à l'époque, ces bâtiments qu'on vendait aux gens en banlieue, c'était le summum de la modernité.
C'est ça, mais mon père...
C'était compliqué
en fait,
de dire non, parce que finalement, c'était dire oui à beaucoup d'espace, beaucoup de modernité.
Absolument, mais mon père a d'une certaine manière été visionnaire parce que lui, ce qu'il le dérangeait, en fait, c'était pas tant les bâtiments qui effectivement étaient extrêmement modernes à l'époque et il était bien placé pour le savoir car il les construisait, mais c'était surtout en fait le fait de rester parmi finalement les siens. Et lui avait vraiment compris qu'il allait faire sa vie ici et sa famille ici et il voulait que ses enfants se mélangent. Et c'est ce qu'il disait, mes enfants en fait ne seront jamais français s'ils ne se mélangent pas avec les Français. Et donc il faut que je reste à Paris, au milieu justement de cette population, avec mes enfants et ma famille, pour que finalement en fait eux s'adaptent à cette vie qui sera la leur dans l'avenir.
On découvre que votre père est un amoureux de la ville aussi, hein. C'est pour lui la ville la plus romantique du monde, mais c'est une ville qu'il connaît bien pour l'avoir arpentée en fait à pied, et comme il est maçon, c'est une ville qu'il façonne.
Absolument, et il dit d'ailleurs, c'est une ville en fait que je connais mieux que ceux qui la chantent. Et il a commencé par arpenter cette ville en fait par les égouts. Parce que le premier, son premier
job,
travail, ça a été voilà aux égouts en fait de la ville de Paris. Il y a travaillé pendant 3-4 ans et il y a respiré en fait des odeurs nauséabondes qui l'ont d'ailleurs rendu malade après.
Il raconte qu'on trouve dans les égouts de Paris dans les années 60. Hein.
Des choses incroyables, parfois des cadavres, de l'argent, des rats en fait qu'il déplaçait avec la lampe torche. Et en fait, ça a été son premier contact finalement avec la capitale. Le second contact pour lui, ça a été de détruire en fait le vieux Paris, le Paris de l'Est parisien, qu'il a eu beaucoup de mal justement à détruire, et ça a été l'un des passages les plus émouvants, parce que finalement je me suis rendu compte que mon père en fait avait une sensibilité, que c'était pas juste un maçon avec une pelle et une pioche qui détruisait la ville et qui rentrait le soir à la maison pour passer à autre chose. Et en fait il était très triste en fait de détruire cette ville en fait qu'il avait peut-être un peu imaginé comme une ville extraordinaire, et finalement qu'on lui demandait justement de détruire pour construire ces fameux bâtiments carrés qui sont les HLM qu'on connaît aujourd'hui.
Et puis, c'est aussi une balade dans ce quartier qu'on a vu beaucoup changer, hein, de Ménilmontant, mais tout ce qui est du côté de la rue des Pyrénées, de la rue de Belleville.
C'est ça. Et une balade, en fait, qui, dans ce cas, est très intéressante, parce que, une fois de plus, c'est ce qui m'a intéressé dans ce projet, c'était de donner, en fait, de donner un corps, finalement, à ce personnage qui est mon père, en fait, que j'avais l'impression de connaître, et que finalement je découvrais. Mon père est arrivé à Paris en sens interdit, rue de la Mare, en 63.
Il arrive d'abord à Place de la République.
D'abord Place de la République,
Il découvre la statue de la République.
De la République, et il a l'impression que c'est une femme kabyle, avec son rameau d'olivier, et qui lui souhaite finalement la bienvenue. Et il arrive ensuite en taxi rue de la Mare, donc en sens interdit, et la première difficulté pour lui, justement, comme vous dites très justement, ça a été de découvrir cette ville, mais à tâtons. Pour lui, en fait, c'était tellement immense que ce qu'il faisait, c'est qu'il allait d'abord d'une rue à une rue assez courte, au bout de la rue, il regardait à droite, à gauche.
On descend sur République, hein, parce que ça descend pour y aller, ça remonte après.
C'est ça, il revenait en fait sur ses pas, si la rue n'était pas trop longue, en fait, il l'arpentait, et puis ensuite une suivante, et en fait, il a découvert la rue un peu comme un enfant qui apprend à marcher.
Et il voit ce quartier devenir bobo, se boboiser, devenir branché, et ça lui plaît pas du tout d'ailleurs.
En fait, il a un avis partagé, parce que il est ravi en fait de l'évolution du quartier, en tout cas à l'extérieur, mais à l'intérieur, en fait, il a le sentiment de plus trop reconnaître le quartier que lui a connu. Notamment, il m'a dit une chose en fait par rapport aux enfants. Il me dit, c'était un quartier où il y avait énormément d'enfants avant, et maintenant c'est un quartier où il y a très peu d'enfants. Et on le voit par exemple dans les parcs. Et ça fait partie en fait des choses qu'il regrettait en fait du quartier qu'il a connu.
Et c'est le quartier de votre enfance.
C'est le quartier de mon enfance où je suis né, où je vis toujours, et ou peut-être moi-même je vais partir à un moment.
Voilà. Donc dans le 20e se trouve la place Martin Nadaud. Alors Absolument. Martin Nadaud, c'est qui pour ceux qui nous écoutent?
Alors Martin Nadaud, c'est un maçon creusois qui est né en 1815 donc dans la Creuse, et qui est monté en 1830 à Paris pour construire la ville aussi. C'est un autodidacte, c'est un personnage assez incroyable, parce que il est devenu en fait maçon, et de maçon en fait il est devenu l'un des premiers députés républicains sous la Troisième République.
C'est le premier député socialiste.
C'est ça, et en fait maçon. Ouvrier.
Ouais.
Et donc il a vraiment d'une certaine manière tout appris en fait par lui-même, et j'ai voulu mettre son histoire en parallèle avec celui de mon père, parce qu'il y a énormément en fait de points communs entre les deux parcours. Et pour l'anecdote, j'ai pensé à ce personnage parce que j'ai commencé à interroger mon père place Martin Nadaud. Et ma compagne en fait m'a dit
qui est pas très loin de la place Gambetta d'ailleurs.
Pas très loin de la place Gambetta où je suis né, et ma compagne m'a dit tu devrais te renseigner sur ce personnage, parce que Martin Nadaud, c'est un maçon comme ton père, et puis c'est quelqu'un qui a aussi connu un petit peu l'exil, parce que avant en fait les immigrés étaient les immigrés de l'intérieur, des immigrés régionaux à son époque, qui d'ailleurs devaient avoir un passeport pour se promener en France. Et finalement, en faisant des recherches, j'y ai trouvé tellement de points communs que j'ai décidé d'en faire un personnage à part entière dans le livre.
Mmh. Alors, il est français, Martin Nadeau, mais c'est un émigré lui aussi, hein, parce qu'on se rend compte que dans la région d'où il vient, la Creuse, on ne parle pas français.
Exactement.
On ne lit pas, on n'écrit pas déjà. C'est complètement différent, hein. Et c'était il y a 150 ou 200 ans.
C'est ça, c'était lui est né en 1815 et en fait sa mère qui en fait est née aussi en Creuse, donc en France, n'a jamais parlé français, elle a toujours parlé le patois. Et c'est le cas finalement de beaucoup de Français en fait qui à cette époque-là en fait sont dans les régions. La France est en train de se construire, la République aussi, il n'y a pas encore une appartenance vraiment commune à la nation. Et finalement j'ai trouvé intéressant de raconter aussi d'une certaine manière la construction de cette histoire de France à travers ce personnage et à travers ces personnages qui les deux finalement sont une pierre importante de cette construction.
Enfance à la campagne, exil à Paris, dans une chambre misérable, hein, comme votre père l'a connu, c'était les hôtels à l'époque. Hein.
C'est ça exactement.
On partageait les chambres avec les cousins de la région, du même endroit, dire le bled.
On appelait ça les garnis. Et en fait, chacun avait sa place dans un garni, et c'est ce qui d'ailleurs, comme mon père, en fait, mon père m'a dit, ce qui nous a poussé à partir, c'est qu'on savait que des gens nous attendaient là-bas à Paris, des gens de la région, des cousins ou de la famille. Pour Martin Nadeau, c'est la même chose. Mmh. Ce qui les pousse à partir, en fait, eux partent à pied de la Creuse à Paris, et ce qui les pousse à partir, c'est que là-bas, en fait, il y a déjà des Creusois qui sont sur place, il y a déjà des garnis avec un lit qui les attend. C'est des conditions extrêmement spartiates, mais c'est comme ça, en fait, que commence l'exil de Martin Nadeau. Et finalement, c'est la même chose que mon père retrouve presque 150 ans plus tard, en 63, à Paris.
Hmm. C'était le cas des Aveyronnais, des Corses, hein. Les gens se retrouvaient par région, en fait.
Absolument, c'est ça. Et ils venaient, en fait, par région, chacun, en fait, pour exercer une profession, ou alors un secteur professionnel. Et j'ai trouvé très intéressant, finalement, de redécouvrir la ville et de redécouvrir un petit peu la population de cette ville, justement, en passant par son origine.
Hmm. Ce quartier, ce Paris des années 63, hein, votre père arrive à Paris en 63, cette immigration algérienne, kabyle, qu'on retrouve dans les quartiers, hein, autour du 3e arrondissement, mais aussi du 11e, du côté de Ménilmontant, elle existe, on la voit. Est-ce qu'il en reste des traces aujourd'hui de cette histoire que votre père a connue, les cafés kabyles, avec les chanteurs qui venaient le soir?
Absolument, et il reste, j'ai envie de dire, une trace assez extraordinaire et vivante, notamment face au métro de Ménilmontant, où justement tous ces immigrés qui sont venus dans les années 60 en fait se retrouvent tous les jours.
Alors attendez, moi je vois un KFC et je vois un McDo.
Vous avez le KFC, le McDo à droite et à gauche, mais si vous allez juste en face de la sortie du métro, vous avez deux bancs, et sur ces bancs, en fait, dès 9h30 du matin, vous avez en fait ce qu'on appelle parfois les Chibani, qui sont là, qui se retrouvent tous les matins, qui prennent des nouvelles du pays, et qui sont là en fait, après plus de 55 ans, à être venu ici pour construire la capitale et qui continue de se retrouver. Et finalement, ce sont des mémoires et des traces vraiment vivantes.
Ouais.
Et j'ai voulu en fait en sortir un. J'ai eu la chance d'avoir mon père en fait parmi ces Chibani, et j'ai voulu en sortir un pour aller du pluriel au singulier, pour que finalement on se raconte en lui, que tous se racontent.
Il y a encore quelques restaurants algériens dans le quartier. Quelques-uns, ouais.
Il en reste, et il en reste des bons et des cafés aussi, d'ailleurs.
T'as des adresses?
Oui, il y a quelques adresses. Moi, je pense à la Nouvelle Étoile, par exemple, qui se trouve, sans faire de publicité, qui se trouve au croisement de la rue des Pyrénées et de la rue Villers-Villadan, et qui est l'un de ces cafés, en fait, kabyles, et qui a évolué avec, à travers ses parents, ses enfants, et maintenant ses petits-enfants, en fait, qui s'en occupent. Et donc, voilà, il y reste encore ces traces-là.
L'histoire de Martin Nadeau, que vous rapprochez de celle de votre père le connaissait pas, Martin Nadeau, quand vous lui en parlez, et vous le lui apprenez d'une certaine façon, et vous essayez de trouver un consensus avec lui, puisque comme c'est aussi son livre, pour qu'il soit d'accord sur ce qu'il écrit.
Absolument, mais en même temps, il n'y avait même pas besoin de trouver un consensus. En fait, lui était très fier, justement, que son histoire soit mise en parallèle avec celle de Martin Nadeau. Il connaissait Martin Nadeau parce que Martin Nadeau, en fait, c'était la place où il amenait ses enfants, parce qu'on était à l'école juste à côté à Sorbier, où il a amené, en fait, sa femme, en fait, accoucher à l'hôpital Tenon, qui est la place Gambetta juste après. Et en fait, finalement, il m'a complètement laissé faire. J'avais vraiment carte blanche, et c'est moi qui, au fur et à mesure de mes découvertes, lui disais, tu te rends compte, en fait, que la Creuse ressemble énormément à la Kabylie, que vous habitiez dans une maison où, qui est en même temps les animaux pour vous tenir chaud en hiver,
deux
et
pièces,
en même temps les hommes.
Ouais.
Et en fait, il découvrait d'une certaine manière l'histoire de France. C'était très touchant de cette manière-là, à travers l'histoire de Martin Nadeau et son parcours qui allait être mis en parallèle dans son livre.
Il n'est pas enterré au Père Lachaise, hein, Martin Nadeau. Et vous allez sur sa tombe, d'ailleurs. Hein.
Absolument. C'est un pèlerinage, en fait, que je fais. Je vais dans la Creuse. Et dans la Creuse, en fait, je vais visiter, justement, la tombe de Martin Nadeau. Alors que Martin Nadeau, quand Martin Nadeau était conseiller, en fait, de l'Est parisien, notamment du Père Lachaise, à l'époque, c'était la mode de se faire enterrer au Père Lachaise. Et il aurait très bien pu y être enterré. Mais il a préféré revenir, en fait, dans son village, en Creuse. Et donc, il est enterré là-bas. Et je suis allé rendre hommage comme un pèlerinage à sa sépulture.
À la Martinèche.
À la Martinèche, le hameau de la Martinèche.
Omar Bendala est avec nous aujourd'hui. Son livre s'appelle « Tu n'habiteras jamais à Paris ». On le lit ensemble et c'est aux éditions Flammarion.
Beurre FM, midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Beurre FM, midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Omar Bendala est avec nous aujourd'hui, l'invité du Book Club à l'occasion de la publication de « Tu n'habiteras jamais à Paris ». Mon père Martin Nadeau et moi aux éditions Flammarion, à quel genre votre livre appartient-il ?
C'est un récit parce que c'est vraiment le récit raconté par un personnage en fait qui se raconte lui-même à la première personne et par un personnage qui aurait pu se raconter à la première personne et que j'ai fait en fait parler dans ce récit.
Alors votre père a dû se replonger dans ses souvenirs de quand il était très petit, hein, parce que bon, il raconte alors son enfance. Une enfance en Kabylie, une enfance, vous parliez de ces maisons où il y avait deux pièces, hein, 9 mètres carrés pour toute la famille et puis le reste était pour les animaux.
Absolument, et c'est une maison d'ailleurs que j'ai revue il y a 2-3 semaines de ça. Et c'est extrêmement touchant finalement.
Revue ou vue pour la première fois ?
J'ai dû la voir, mais je n'y ai pas fait attention parce que je n'étais pas retourné en Algérie depuis un moment. Et là, je l'ai revue et je suis vraiment entré à l'intérieur. J'ai regardé et vraiment à la lumière justement de ce que lui m'a raconté. J'ai imaginé le petit Bouzid courir pieds nus sur les chemins escarpés de Kabylie. Et finalement, je pense que c'était aussi d'une certaine manière thérapeutique pour lui de se raconter. Et ce que mon père disait en fait, j'aimerais finalement que vous compreniez en fait par où on est passé et qu'on n'est pas simplement en fait des parents point à la ligne. Et qu'on n'a pas été des enfants avant, qu'on n'a pas été des adolescents, qu'on n'a pas été en fait de jeunes adultes. Et finalement, en fait, d'une certaine manière, c'était pour lui redonner consistance à une existence en fait qui a commencé un beau jour par un premier cri.
L'histoire des parents que tout le monde ne connaît pas. Donc il faut leur faire raconter quand ils sont vivants, même si certains ont du mal à se livrer.
C'est ça, et c'est vraiment les retours que j'ai avant que le livre ne sorte pour les personnes en fait qui étaient au courant, et maintenant que le livre sort, la majorité des retours que j'ai, c'est quelle chance tu as eu. Soit il faut que je m'y mette, soit je ne pourrai plus le faire parce que mes parents ne sont plus là pour témoigner.
Alors, il n'est pas tout à fait certain de sa date de naissance, hein, ni de l'année d'ailleurs.
C'est ça, il est présumé en 1939, lui dit 38, mais à peu près dans cette période-là.
Son prénom, il sait d'où il vient.
Oui, il pense en fait que c'est d'un guerrier en fait conquérant et moi j'imagine en fait ma grand-mère se réserver le droit de donner à son fils justement le nom d'un conquérant à une époque où elle est en fait dans un pays colonisé.
Alors pour le nom de famille Bendala, d'où vient-il ?
Alors apparemment en fait c'est celui qui est le plus haut, peut-être le plus haut dans la montagne, que sais-je, mais en tout cas c'est le prénom en fait qui est celui à l'origine de ce nom-là. Ben, ce sont les Français qui
dans le village en fait.
C'est ça, dans la région. Oui. Je pense dans la région. Hein. Et en fait Ben.
Ça s'appelait Lala en fait.
C'est ça, voilà, Lala en fait. Et c'est pour ça qu'il a voulu rajouter cette coquetterie, qui est l'accent, parce que quand il est allé s'inscrire justement le fonctionnaire lui a dit c'est Lala et mon père a dit je ne connais pas de Lala, moi c'est Lala, donc c'est le seul dans la famille en fait qui a voulu rajouter cet accent, et c'est comme ça en fait que le nom s'est construit.
Bon, comme je vous le disais, hein, il n'est pas sur la couverture de votre livre.
Oui, c'est vrai.
Hein, c'est l'édition qui veut ça.
Oui, voilà, c'est une question qu'on s'est posée, mais finalement c'est comme ça que ça s'est fait, et pourquoi pas aussi.
Parler de l'enfance, alors il y a des anecdotes de l'enfance, vous racontez que finalement que votre père a été comme beaucoup berger, c'est quelque chose qu'il n'aimait pas du tout par exemple. Parce qu'il y a souvent ce mythe de voilà, il était berger, il courait dans la montagne, c'était super bien, et lui non.
Non, il détestait ça et d'ailleurs moi aussi j'ai détesté ça parce que j'ai eu une expérience que je raconte à un moment dans la barbe où j'ai été aussi berger pendant une après-midi et c'est très compliqué d'être berger. Et lui, mon père explique qu'il avait des chèvres et des moutons, les chèvres courent quand les moutons marchent. Et pour lui en fait c'était insupportable et il a pas du tout aimé ça et fort heureusement ça n'a pas duré très longtemps pour lui.
Alors après, il y a plein d'anecdotes. Il y a un sujet que vous redoutiez d'aborder avec lui, c'est celui de la guerre d'Algérie.
Absolument.
Pourquoi, et en fait, alors, c'était quoi, un secret familial? Vous sentiez qu'il y avait un tabou autour de cette thématique de la guerre d'Algérie, ou c'est vous qui vous étiez fait des films?
Non, pas du tout. En fait, ce que je me suis dit, c'est que je me suis dit que j'avais pas envie de lui faire du mal, en fait, à ressasser cette période douloureuse. Et ça l'a été. Et ça l'a été notamment, en fait, pour cette raison que lui évoque, c'est que c'était une période de très grande confusion. Et dans cette période de très grande confusion, en fait, il y a beaucoup de douleur, il y a beaucoup de peine. D'ailleurs, mon père me dit, c'est pour ça qu'on ne vous parle pas de cette période-là. Parce qu'on ne veut pas vous faire la peine que nous, on a reçue et qu'on a subie. Mmh. Et on veut que vous regardiez vers l'avant. Et c'est pour ça que je redoutais ce passage. Alors qu'en même temps, je voulais vraiment qu'on raconte vraiment tous les passages qu'il a vécu. Et mon père, en fait, se raconte donc avec beaucoup de pudeur, mais accepte de témoigner. Et vraiment, ce qui ressort, c'est la confusion. Et la deuxième chose qui ressort de cette période, et mon père me dit ça, vous parliez des cafés, il me dit, pour nous, la guerre d'Algérie a aussi continué quand on est arrivé en France. Avec ceux qui étaient, entre guillemets, avec les Français, ceux qui étaient avec l'Algérie, et les uns disaient aux autres, bah alors maintenant vous étiez avec les Français, regardez comment est-ce qu'on vous traite. Mmh. Et ceux qui étaient pour l'indépendance, bah qu'est-ce que vous faites ici en Algérie? Restez en France, en fait, restez en Algérie pour profiter de l'indépendance. Et c'était une vraie confusion, et mon père me disait qu'il continue encore au jour d'aujourd'hui. Il y a encore certaines personnes, en fait, qui en sont encore là, et comme il dit justement, qui n'ont pas eu assez d'une vie et d'une famille pour penser à autre chose.
Oui, aujourd'hui, 55 ans après, on en est toujours en train d'écrire cette histoire.
C'est ça.
Ou de terminer de l'écrire, ou de la rectifier, ou voilà.
C'est ça, et la difficulté, en fait, c'était de se replonger là-dedans, alors que lui était quelqu'un, en fait, qui voulait regarder garder vers l'avant. Et c'est pour ça qu'il a aussi fait cet exil, pour regarder devant.
Par exemple, votre père vous dit, Omar Ben Lala, qu'il n'avait pas le sentiment, quand il vivait au village, de vivre dans un pays colonisé.
Absolument.
Les Français,
pas.
On n'en voyait pas.
Non, et puis même dans un pays tout court. En fait, mon père n'a pas été scolarisé, donc il n'a pas eu de leçon de géographie. Et quand on lui a dit, par exemple, il va falloir se battre contre les Français, et il me dit, mais à quoi ça ressemble un Français? C'est qui, c'est
quoi? Il n'y en avait pas au village, quoi.
Bah non, il disait qu'il envoyait de temps en temps, qu'il venait pour voir un peu, peut-être, si tout allait bien. Apparemment, l'armurier était italien, enfin voilà, quoi. Et ça a été intéressant pour moi, parce que moi, qui ai une certaine conscience politique et une conscience, en tout cas, scolaire de ce qu'est un pays, de ce qu'est une histoire, pour lui, pas du tout. Et ça a été très touchant pour moi de le découvrir. Et finalement, c'est un peu la même chose quand il arrive en France. En France, en fait, quand on lui dit, bah, tu vas travailler à l'usine, c'est quoi une usine? À quoi ça peut bien ressembler? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce système? Et en fait, il apprend en autodidacte à chaque fois, en fait, les choses qui se présentent à lui.
Mais enfin, il était quand même déjà allé à Alger le jour où il décolle pour aller en France. Il avait déjà vu Alger.
C'est ça, il avait déjà vu Alger, en fait, pour rejoindre son père qui, lui, en fait, était recherché justement par l'armée française et qui était allé se réfugier à Alger. Et en fait, la seconde fois qu'il va à Alger, en fait, c'est intéressant cette anecdote, et vous le dites d'une certaine manière, c'est intéressant de poser la question, parce que ce qui lui plaît à Alger, c'est les routes droites et plates. C'est pas la ville.
Oui, parce qu'au village, c'est des terrains en terre, pas droit.
C'est ça, et lui, en fait, il est vraiment fasciné par cette modernité et d'une certaine manière aussi par les constructions humaines. Et je pense que s'il a été maçon et qu'il a aimé aussi d'une certaine manière être maçon, il est devenu un bon maçon, c'est ce qui le passionnait et c'est ce qui le fascinait, en fait. C'est comment est-ce que justement on pouvait partir d'un chemin caillouteux à une route droite et aplatie et finalement progresser, évoluer, encore une fois regarder devant.
Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si je dois vous dire adieu, sachez bien que mes aïeux ont combattu pour la France bien avant la résidence. Donc ça, effectivement, c'est un extrait de cette chanson de Slimane Azam, La carte de résidence. C'est une chanson que votre père écoutait?
C'est une chanson et un artiste que mon père écoutait, que mon père aimait beaucoup. Et c'est aussi une chose que j'ai découvert avec lui, c'est son amour de la musique. Je n'aurais pas imaginé que mon père était mélomane, et il l'était.
D'après ce qu'on nous annonce, ça va dans un bon sens. Faut pas prévoir à l'avance avant d'avoir la réponse. Avant d'avoir la réponse au sujet de la résidence. كنهني مانيش يلا وغرم ذي تمرتيش أصلو مورا تمسلتيش كل ناس ذلي كونفيرانس كل ناس ذلي كونفيرانس بوري تدي تولي صانس Vraiment bien dommage, le racisme et le chômage. Heureusement qu'il y a du sage, c'est le prestige de la France.
c'est le prestige de la France, c'est la raison d'espérance. ريت تقابل يا ناس السوم رخيص وقرنا استياد لا شانس وقرنا استياد لا شانس ميت سعد لا ريزيدونس conversation, le chômage, l'immigration, après les négociations, on attend qu'on nous annonce, on attend qu'on nous annonce, chaque fois ça recommence. يا قيم صبر في دمور تعزيز نمل أمر ما يلا يلزم السافر أبزر لدي في راس أبزر لدي في راس ما يلا ولاش للريزيدانس Travail quand il est dur, si pour l'immigré bien sûr, avec la conscience pure, dévouement et les souffrances. Le dévouement et les souffrances, ça mérite la récompense. نخدم شي طوح في قان عزيزنا ما نروح ما يلا يلزمها غن روح الفوسي بير لي كونسيكونس الفوسي بير لي كونسيكونس يورا بلي در ريمينونس Tous en pratique, de retourner chez les miens. Je suis un Africain, le soleil en permanence. Le soleil en permanence, pour moi ça a de l'importance. سنجت روح ظلا يطيج ذم كل تامور تتفجي ربي لحنني يتفرج يضمنا غنعيش دافونس يضمنا غنعيش دافونس جسكا لا فان ديكزيستونس Avec une grande joie que je vais rentrer chez moi. C'est normal chacun chez soi. Souvenir de notre enfance. Souvenir de notre enfance avec toutes ses références. C'est bien que la terre est ronde, le soleil est pour tout le monde. Il brille à travers les hommes, grâce à la providence. Grâce à la providence qui domine toutes les puissances. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si je dois vous dire adieu, sachez bien que mes aïeux ont combattu pour la France. Ont combattu pour la France bien avant la résidence. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si nous devons vous dire adieu, sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France.
Le Book Club revient dans un instant. Beurre FM, midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM reçoit aujourd'hui Omar Benalla. Et vous êtes là, Omar, pour nous parler d'un récit « Tu n'habiteras jamais à Paris, mon père, Martin Nadeau et moi » aux éditions Flammarion, un livre que vous avez écrit avec votre père. D'ailleurs, c'est un projet dans lequel il est central. Hein.
Complètement, c'est lui le héros, c'est lui le personnage principal.
Bouzide. Bouzide Benalla, qui raconte son histoire. Et à travers cette histoire, il y a une histoire peut-être de la lutte des classes, beaucoup. On voit que votre père avait décidé d'être un ouvrier, mais un ouvrier qualifié. Pour lui, c'était important, la formation. C'était très important même.
Absolument, il est devenu maçon-boiseur. Et pour lui, c'était d'autant plus important qu'il s'est très rapidement rendu compte, finalement, que si lui ne demandait pas cette qualification, on n'allait pas lui proposer. Mmh. Et donc, pour lui, c'était aussi d'une certaine manière s'émanciper et lutter aussi pour pour avoir une place sociale un peu plus enviable, même si on peut imaginer en fait de l'extérieur que c'est pas si extraordinaire et qu'il n'y a pas tant de différence entre être maçon et maçon boiseur, pour lui, si.
Ça faisait beaucoup de différences. Il rejoint la France en 1963, hein, à l'indépendance de l'Algérie. Mais pour venir en France, il faut qu'il ait des papiers. Et c'est là que, d'une certaine façon, on le marie de force pour des papiers.
C'est ça, en fait, pas de force, mais plutôt par surprise. En fait, quand on se
c'est même pas un mariage arrangé, c'est pire que ça. Ouais, bah, un jour, vous êtes invité à une fête et c'est vous le marié.
C'est ça. Et lui, il parle de mariage surprise. Et ce qui se passe, en fait, c'est que sa famille a bien senti qu'il voulait partir en France. Il avait vraiment cette idée fixe en tête. Et donc, pour le garder ici, en fait, il le marie avec ma mère. Et lui, bah, prend ça, en fait, vraiment comme... Il est pas du tout prêt à ça. Il a pas envie de se marier. Lui, ce qu'il veut, c'est partir en France. Et puis, on verra, advienne que pourra. Et il accepte parce que c'est un homme responsable et il se marie donc et il dit à ma mère en fait qui vient de devenir sa femme, je pars en France, je reviens le chercher, je ne sais pas quand, je vais voir comment c'est, à quoi ça ressemble, ce que je peux éventuellement y faire ou pas, et je reviens le chercher, attends-moi, ne t'inquiète pas. Mmh. Et il part 27 jours après son mariage en France.
Et ils restent toute leur vie ensemble. Hein,
voilà. Ils restent toute leur vie ensemble et finalement comme Martin Nadeau aussi, Martin Nadeau part 23 jours après son mariage, retourne à Paris pour travailler.
Et quand il part à Paris, il met ses pas dans les pas de son père, hein, puisque votre grand-père aussi était un émigré venu en France pour travailler, qui fait la première guerre mondiale, hein, prisonnier par les Allemands.
La deuxième guerre mondiale, voilà, en 40.
Oui, deuxième guerre, pardon.
Et c'est une chose que je découvre aussi. Mon grand-père est venu, lui, il travaillait à Clichy dans le transport de charbon. Je me suis un petit peu renseigné sur ce qu'étaient en fait les conditions de travail à Clichy dans les années 30 dans le transport de charbon. C'était peut-être encore pire que ce qu'a connu mon père. Mmh. Et lui, c'était une immigration qui ressemblait peut-être à celle de Martin Nadeau, dans le sens où il partait un an et demi et il revenait.
Et il revenait, ouais.
Voilà. Et la génération de mon père, c'est une immigration en fait qui est vraiment restée. Mais celle de mon grand-père, en fait, c'est une immigration en fait qui allait et venait. Et mon père est venu en fait au monde entre deux allers-retours.
Mmh. Et votre grand-père reviendra s'installer après la guerre, d'ailleurs. Hein.
C'est ça,
définitivement en Algérie.
C'est ça, exactement. Et en fait, il ouvrira un petit commerce à la grande joie de mon père, en fait, qui l'aidera justement dans le commerce. Une petite épicerie que j'ai revue aussi là. Et il m'en parlait en fait comme si j'avais l'impression que c'était le nouveau Carrefour digitalisé, etc. Et en fait, ça l'était pour lui à l'époque. Et surtout, ce qui lui a plu en fait dans ce travail, c'est le fait en fait de parcourir les distances et d'aller chez les fournisseurs, de revenir. Et puis de prendre finalement ses responsabilités.
Ouais, et c'était quand même sacré des déplacements dans la journée. Hein.
C'est
à
incroyable.
L'époque, quand on pense qu'on faisait 25, 30 ou plus de kilomètres par jour.
Quelles que soient les conditions climatiques. Et c'est pour ça que mon père me disait en fait qu'il avait une passion pour le cheval et que ce n'était pas le seul dans ce cas-là. Parce que finalement, le cheval permettait d'aller plus loin que ces 30 kilomètres qu'on pouvait faire à pied. Mmh. Et c'est très important en fait de comprendre ça quand on veut comprendre un petit peu peut-être l'immigration de ces personnes-là. C'est que finalement, c'est ce que mon père me disait. Il me disait en fait, j'avais besoin de perspective, j'avais besoin de vision. Là, je suis dans votre studio, je vois ce qui se passe après. J'aurais peut-être envie de voir ce qui se passe encore après.
Vous,
cet
là,
après.
Vous avez vu sur la scène.
C'est ça. Et eux, en fait,
c'est magnifique.
Exactement, et eux avaient ce manque-là. Et c'est pour ça qu'en fait, le fait de parcourir les distances et de le faire éventuellement à cheval et peut-être après en avion pour traverser la mer et aller dans un autre pays, c'était ce qui importait à ce moment-là.
Mais d'ailleurs, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que pour lui, en tout cas pour votre père, c'était pas une immigration économique.
Non, et c'est aussi une nouvelle surprise. Souvent, on pense que c'est simplement une immigration économique. Et lui dit que c'est une immigration, avec ses mots, c'est une immigration mentale. C'était une immigration, en fait, pour ne pas devenir fou. Pour ne pas en fait être prisonnier par ce manque de perspective. Et finalement, pour moi, ça a été très intéressant et très touchant justement de l'observer et finalement de l'écrire. Et peut-être que d'autres personnes s'en rendront compte en discutant avec leurs parents. Ce qu'ils voulaient, il me dit, n'oublie pas en fait, on était des gamins de 20 ans et on avait juste envie de découvrir le monde. Aujourd'hui, un jeune de 20 ans qui voudrait faire un tour du monde, on lui laisserait justement, j'ai envie de dire, la dimension intellectuelle et culturelle justement de ce projet. Mais pas pour nos parents, alors que c'était le cas. Et donc l'idée, c'était un peu de réhabiliter aussi cette dimension-là, parce que ça a été le cas pour eux, ils voulaient d'abord découvrir le monde.
D'accord, mais lui, très vite, contrairement aux générations précédentes, lui, il comprend qu'il va rester là, que sa vie, ça sera en France désormais et à Paris.
Très rapidement, en fait, finalement, il le comprend après le premier retour en Algérie, environ un an et demi après. Et il a goûté, comme il le dit, en fait, Paris. Et puis, il voit, en fait, qu'en Algérie, ça n'avance pas comme il l'imaginerait. Son père lui propose d'agrandir l'épicerie pour éventuellement vendre quelques kilos de café ou de sucre ou quelques cigarettes. Et mon père, en fait, se rend compte que ce n'est pas possible. Et en fait, pour lui, il se rend compte très rapidement, en fait, qu'il va faire sa vie en France. Mais c'est très difficile et c'est un vrai choix politique pour lui. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, ça ne se pense pas. ça ne se fait pas et ça ne se dit pas. On y va 1 an et demi, 2 ans pour remplir les caisses et on retourne construire le pays. Et lui, très rapidement, a cette intuition que c'est pas ce qui va se passer. Et les faits lui ont donné raison parce qu'un demi-siècle plus tard, c'est pas ce qui s'est passé.
Comme Martin Nadeau, il y a un rapport à la langue. Alors Martin Nadeau, c'est son père qui le premier comprend que le fait d'apprendre à lire et à écrire, c'est quelque chose qui vous permet de sortir de votre classe.
C'est ça, et en fait, il est complètement en fait en désaccord avec toute sa famille. Quand il revient, ça se passe au cabaret, et Martin Nadeau doit avoir 6 ou 7 ans, et en fait, il demande au Marguillet, qui est le curé justement, qui lui a eu quelque chose qui ressemble à une classe, et lui dit est-ce que vous voulez bien prendre mon fils Martin pour lui apprendre en fait l'alphabet? Et toute sa famille, la famille du père de Martin, Léonard Nadeau, en fait, dit mais tu n'y penses pas. Personne ne sait lire et écrire chez nous, personne n'a appris ses lettres, et en fait on mange du pain quand même. Mais le père de Martin Nadeau, qui lui va à Paris et qui se rend compte en fait de l'importance justement de l'instruction que lui n'a pas eu, ne veut pas ça pour son fils. Et il tient bon. Et on prend même en fait le père de Martin Nadeau pour un fou. Et c'est finalement en fait, j'ai voulu démarrer le portrait de Martin Nadeau en fait par cette anecdote, parce qu'elle dit tellement justement du combat politique et social. Souvent quand on parle aujourd'hui de combats politiques et sociaux, on imagine des grands combats. Et finalement, tout simplement faire accepter à sa famille que son fils en fait ira à l'école, c'est un combat politique et social pour les personnes à ce moment-là.
Alors que lui, Martin, lui, il voulait aller travailler comme les autres.
C'est ça, et puis il se dit en fait, et ça c'est moi qui l'ai imaginé, ça a été très intéressant dans la construction du parcours de Martin Nadeau, c'est quelque chose en fait que j'ai imaginé, je me suis dit ce serait trop facile de lui faire dire en fait c'est génial, mon père veut que j'aille à l'école, j'irai. En fait non, lui il voit les maçons en fait, son père et les autres maçons qui montent à la capitale, et il veut juste être maçon. Et c'est ça en fait pour lui justement sa position sociale. Et en fait j'imagine le jeune Martin Nadeau, enfant, et qui dit mais que veut mon père en fait, pourquoi est-ce qu'il veut aussi m'apprendre les lettres? Et d'une certaine manière, il a l'impression que son père l'éloigne de lui, alors que son père a vraiment un autre projet pour lui.
Et on voit effectivement que voilà, ce sont des projets qui sont complètement différents. On voit le rôle que la radio va jouer pour la génération des hommes comme votre père, puisque c'était aussi un moyen d'acquérir la langue.
Absolument, et c'est d'ailleurs assez extraordinaire parce que en fait ils écoutent la radio, ils essayent d'attraper des mots à chaque fois. Mon père me disait qu'il y avait certains Algériens en fait qui étaient vraiment lettrés. Il m'a dit ça un peu comme presque comme un défi. Il parlait mieux français que toi. Et d'une certaine manière, en fait, ils se faisaient leur scolarité au quotidien avec justement ces personnes-là qui leur traduisaient ce qu'ils entendaient à la radio, parce que la radio était tout le temps branchée quand ils demandaient l'autorisation à la patronne qui leur louait les chambres, parce qu'il fallait rajouter des ampères et des watts. Enfin, c'était
les débuts de la télé aussi. Le début de la généralisation de la télé dans les foyers.
C'est ça.
C'est pour ça qu'on écoutait beaucoup la radio.
Et en fait, il y a un apprentissage en fait de la langue qui se fait au quotidien. Et j'ai trouvé ça extrêmement touchant justement de l'observer et de l'entendre dire.
Et après, vos parents ont continué à apprendre le français avec votre scolarisation et ceux de vos frères et vos sœurs.
Ça a été complètement central en fait, et c'est encore une fois une chose que je n'aurais même pas imaginé. Et mon père me dit quand vous êtes arrivé à l'école, on s'est rendu compte en fait finalement que très rapidement on n'allait pas pouvoir suivre, notamment pour vous aider aux devoirs. Et ce que mon père faisait, et c'est extrêmement touchant de l'entendre, et il le dit et il est gêné de le dire, et il dit quand vous vous couchiez le soir, je prenais vos cahiers en fait de CP et j'essayais en fait de comprendre, de déchiffrer les lettres, de les tracer moi aussi avec son crayon de maçon. Et c'est extrêmement touchant en fait de l'entendre, parce que finalement on n'imagine pas en fait cette humanité là et ça a été ça leur quotidien. Et en fait il m'a dit dans une phrase vraiment très excusez-moi, je suis un peu ému, mais dans une phrase en fait très très touchante, et il dit pendant longtemps je vous ai caché la vérité, je ne vous ai pas dit que je ne savais pas lire. Comme si c'était une honte et une gêne, alors que c'est extraordinaire justement d'avoir appris à lire avec nous en cachette le soir avec nos cahiers d'écoliers.
Et c'est ce qui s'est passé pour toute cette génération. Et votre père, quand il raconte les périodes, les années 70, les années 80, les années 60, c'était un peu les années du plein emploi où finalement, il y avait énormément de travail, notamment dans le bâtiment. À partir des années 70, le travail se fait rare. Et à ce moment-là, votre père raconte comment cette immigration est traitée comme du bétail. Et très vite, lui, il réalise que finalement, ce fameux problème musulman dont on a parlé plus tard, il a commencé avec les immigrés. Et comment finalement la question des immigrés est très tôt devenue la question des musulmans.
Et c'est très, très intéressant parce que c'est à travers une anecdote, en fait, c'est les premières grèves qu'il y a dans les usines. Donc, pour réclamer, en fait.
Les usines, alors, c'est à l'époque, il y avait des usines d'automobiles, hein.
C'est ça, les usines Renault
France
notamment.
Avait beaucoup d'automobiles à l'époque.
C'est ça, et en fait, il y a énormément d'Algériens et de Maghrébins et d'Africains, en fait, d'Afrique subsaharienne, et en fait, qui demandent, en fait, leurs droits, c'est-à-dire des repas, par exemple, sans porc, un moment pour faire leur prière, etc. Et mon père m'explique, et je me suis renseigné, et je l'ai après appris à travers des articles, et ça a été très intéressant de se rendre compte, en fait, que finalement, médiatiquement parlant, on a plus parlé en fait du problème musulman parce qu'il voulait.
Déjà.
C'est ça. Et ça a commencé à ce moment-là parce qu'il voulait justement à un moment des pauses pour faire la prière ou alors une salle de prière en fait dans l'usine. Et on a dit, bah voilà, les musulmans en fait ont envie justement d'être encore plus musulmans dans les usines, de nous amener en fait cette religion-là, alors que c'était avant tout en fait des revendications sociales. Et la partie en fait musulmane, si j'ose dire, en fait en tout cas religieuse, des revendications était vraiment infime. Mmh. Et ce qui a été mis en avant. Et mon père me dit, ben à ce moment-là, on parlait aussi, vous dites, c'est les années 70, de la révolution en Iran, et on parlait beaucoup de ça, donc des premiers mollahs avec la barbe, etc. Et finalement, il y a eu cette confusion-là. Et ce que mon père me dit, avec son recul, il me dit, on n'a pas commencé à parler entre guillemets du problème musulman avec les attentats en 2015. Ça a commencé bien avant, sauf que les gens ne s'en souviennent pas forcément.
Ouais. Alors, votre père voulait être enterré en France.
C'est ça.
Et votre mère n'a pas voulu.
En fait,
pourquoi est-ce qu'il souhaitait lui finalement?
Lui, en fait, ce qu'il voulait, c'est que ce soit plus facile pour sa famille. Et il sait en fait qu'on vit tous ici, ça aurait été plus facile pour aller le voir toutes les semaines, éventuellement au cimetière. Après, il n'avait pas un avis aussi tranché en fait dans les derniers moments, parce que mon père était malade et donc d'une certaine manière, il se préparait aussi au départ. Et je pense que vers la fin, en fait, il n'était pas aussi certain. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a privilégié en fait l'avis de ma mère, et je pense qu'on a bien fait, et on est tous très satisfaits de ça finalement. Parce que finalement c'est ma mère qui reste et comme j'ai fait avec mon père, c'est-à-dire de le mettre sur un piédestal et franchement de lui donner en fait droit à son humanité, bah, il faut que je sache aussi faire la chose avec ma mère et c'est ce qu'on a fait en fait en prenant cette décision.
Toute une génération s'empare de ses parents pour en faire des héros. Hein, vous venez de dire Nandoun qui fait ça. J'avais la famille Idjaouiden la semaine dernière. Voilà, tout le monde, voilà, les parents redeviennent des héros et finalement ceux qu'on n'a pas vus pendant des années se retrouvent une existence dans la littérature.
J'ai envie de dire tant mieux et j'ai aussi envie de dire il était temps parce que c'est une génération qui s'en va. Et qui s'en va en fait avec son témoignage, avec ses secrets, avec aussi cet amour en fait finalement de l'existence qu'ils ont eue malgré en fait les difficultés. Et pour les gens de ma génération, moi j'ai 40 ans et je viens en fait. On va dire, je suis dans une société en fait qui est extrêmement confortable où en fait il y a énormément de facilité et je me plains. Et en fait, peut-être que nous, on a besoin d'entendre en fait les gens de cette génération qui ont vécu des choses en fait qu'on n'imagine même pas.
Qui avaient peut-être vraiment eux le droit. Ouais.
C'est ça, et qui ne l'ont pas fait, et qui ont une fois de plus regardé vers l'avant. Et peut-être qu'on a besoin d'une certaine manière de l'entendre à un moment où en fait on a une tendance justement à être plaintif.
C'est un des grands livres de la rentrée. Omar Benalla s'appelle Tu n'habiteras jamais à Paris, sous-titré Mon père, Martin Nadeau et moi aux éditions Flammarion. Merci de nous avoir fait revivre ces personnages aujourd'hui.
Merci à vous.
Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur Beurre FM.